Bonjour à tous.
Ah, il fait un peu gris ce matin, hein? Et on s'en fiche, c'est bien, on est content. On a la joie dans le cœur. Vous allez bien, c'est bien, moi aussi. Donc ce matin, on va terminer cette étude sur Israël. C'est pas que j'ai plus rien à dire, c'est pas qu'il n'y a plus rien à dire. Mais je pense qu'il faut aussi savoir s'arrêter. Et je pense que 9 prédications au sujet d'Israël maintenant, j'ai fait le tour des choses principales. Et cette dernière prédication est importante. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à l'écoute, et que vous puissiez comprendre ce qui est dit. Au nom de Jésus. Amen. On va faire une première lecture dans Zacharie au chapitre 12. Oracle de l'Éternel, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem, et ce jour-là je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire tous ceux qui les montent. Alors il est évident qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas dire tank, ils ne pouvaient pas dire avion, ils ne pouvaient pas dire missile, ils ne pouvaient pas dire, donc ils parlent de, voilà. Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire tous ceux qui les montent, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel, des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Et ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera, dans ce jour, comme David, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Amen. C'est environ 600 ans avant Jésus-Christ que le prophète Zacharie a donné ce message prophétique. Le nom de Zacharie signifie « L'Éternel se souvient ». Dieu, quand il dit quelque chose, il s'en souvient et il accomplit, il le fait. Dieu parle et il agit. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a annoncé d'une façon aussi explicite et concise les événements concernant le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, Israël et les nations. Il a prédit que Jésus, le Messie, serait humilié, rejeté par les chefs religieux. Il a même annoncé que Jésus serait vendu pour 30 sicles d'argent. Il a annoncé qu'il serait percé, crucifié. Il a aussi annoncé qu'il reviendrait. Il a annoncé que Jésus deviendrait le roi. Il a aussi annoncé la reconstruction du temple à Jérusalem. Il a annoncé que Jésus instaurera la paix. Le chapitre 14 annonce que Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour délivrer Jérusalem. Michou et moi, on est allés sur le mont des Oliviers et on a regardé Jérusalem depuis là. On a dit, voilà ce que Jésus verra quand il viendra. Ça fait drôle, hein? Il a annoncé le jugement qui tomberait sur la Confédération des Nations. Il a annoncé le bouleversement topographique du pays d'Israël. Je pense que vous avez tous vu la photo que j'ai mise sur Révélation Bible. Vous avez vu le changement. Il a annoncé la célébration de la fête des tabernacles durant le millénium. Le millénium, c'est les 1000 ans. Quand Jésus reviendra posant ses pieds sur le mont des Oliviers, il va régner 1000 ans. Après, ça sera le jugement. Alors, lisez le livre du prophète Zacharie, parce qu'il parle, c'est lui qui parle le plus de tout cela. Il parle principalement de 4 choses. Premièrement, c'est un appel à la repentance, chapitre 1, verset 1 à 6. Deuxièmement, il parle de 8 visions destinées à consoler les habitants de Jérusalem, chapitre 1, verset 7, chapitre 6, verset 15. Troisièmement, la réponse d'une délégation venant de Babylone est le sujet du jeûne, au chapitre 7 et au verset 8. Pour lui, Babylone, c'était Babylone, maintenant on sait ce que c'est que Babylone. Quatrièmement, Zacharie donne des prophéties au sujet d'Israël à la fin de notre ère. Il parle du retour et du règne de Jésus-Christ, chapitre 9 à 14. Et c'est important de lire tout ça. Quand je vous dis qu'il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Sinon, vous lisez le journal, bon, c'est à peu près la même chose, hein. Seulement ils ont des partis pris. Oh, ils ont des partis pris. Et ça dépend s'ils sont de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas. La Bible, elle dit la vérité, point barre. Les plus jeunes s'en souviennent pas certainement, mais au matin du 7 juin 1967, le speaker de la radio israélienne a annoncé d'une voix étranglée par l'émotion la ville de Jérusalem est prise et nos troupes prises devant le mur des lamentations. Vous avez certainement vu des vidéos de ça, vous pouvez aller sur YouTube, chercher ça, c'est bouleversant. Depuis 2000 ans, les Juifs rêvaient d'un retour à Jérusalem. Chaque année, ils disaient, l'année prochaine à Jérusalem. Et brusquement, à l'espace de quelques heures, Israël s'est retrouvé en possession de la chose à laquelle ils rêvaient, Jérusalem. Parce que Jérusalem, Dieu avait dit, et quand il dit quelque chose, c'est pour toujours, Jérusalem, c'est là que je ferai siéger mon nom. Mais la réunification de Jérusalem a fait de la ville une pierre encore plus pesante pour les peuples, surtout les peuples d'alentour et puis les autres nations qui s'en mêlent. Et cela devient une véritable coupe d'étourdissement. Pour les nations. D'abord les nations d'alentour et puis tout le reste d'Oslo. Parce que l'esplanade du temple, là où était construit le temple qui était détruit en 70 après Jésus-Christ, l'esplanade du temple est pour les musulmans le troisième lieu saint après la Mecque et Médine. Alors quand on leur dit qu'il y a une prophétie, il y a plusieurs prophéties qui disent que le temple va être construit, ça veut dire que les Juifs n'ont plus de temple là, depuis qu'il a été incendié en 70 par les troupes romaines. Yonah Malachi, qui était alors ministre des cultes d'alors, il a dit « Pas de Messie, pas de temple. Quand le Messie sera là, il fera ce qu'il voudra. » Et il a raison. C'est quand Jésus reviendra qu'il mettra de l'ordre là-dedans. Écoutons ce que Jésus a dit de cette prise en main de Jérusalem par les Juifs. On lit ça dans Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, ça c'est fait, ils l'ont fait juifs, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc il y a un moment où le temps des nations sera terminé. Et là, Israël redeviendra de nouveau une nation avec un esprit. Pour le moment, il n'y a encore pas l'esprit. Il y a, comme je vous ai expliqué, il y a le corps qui a été formé, mais maintenant il faut que l'esprit vienne, c'est-à-dire le Messie. Alors Jésus continue, dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. La mer et les flots. Alors évidemment, on peut penser au réchauffement climatique et puis à la montée des océans, mais d'après ce que je comprends des codes bibliques, c'est plutôt la mer et les flots, ça représente le peuple qui se soulève partout, le peuple qui se manifeste partout, voilà. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Donc Jésus reviendra des nuées. En ce moment, il y a plusieurs personnes, surtout en Afrique, qui prétendent être le Messie. Ce ne sont pas des vrais Messies, ce sont des faux. Jésus, quand il reviendra, viendra des nuées, avec puissance et gloire, et tout œil le verra et tout genou fléchira devant lui. Ce n'est pas un bonhomme qui se déguise en Jésus qui... Non, non, non. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Et ces choses ont commencé à arriver. Ces choses ont commencé à arriver. Depuis, moi je suis né en 1950, les choses étaient déjà en marche, et en 48, l'État d'Israël a été officialisé. Et il leur dit une comparaison avec le figuier. Et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire la génération qui voit ces choses arriver ne passera pas avant que tout cela n'arrive. C'est-à-dire que le retour de Jésus arrive. Je suis de cette génération. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout, hein, pas en train de se rouler par terre. Je ne peux pas m'en empêcher. Non, excusez-moi. En ce moment, nous sommes dans le temps des nations. On est encore dans le temps des nations. Mais, en ce temps des nations, ce temps est en train de se terminer. L'Antichrist prépare la mondialisation. Alors, il n'est pas encore identifié, il ne sera identifié qu'un mois après notre enlèvement. Mais il existe déjà, et il a ses influences, et il est en train d'organiser la mondialisation. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et Jésus dit que ceux qui verront le figuier, c'est-à-dire Israël, refleurir, ceux-là verront le règne de Dieu s'établir sur la terre. Et là, il parle de notre génération. N'avons-nous pas vu Israël, qui était un désert, refleurir? Vous avez vu la photo que j'ai mise sur Révélation Ville? C'est frappant. Avec Michou, on est allé, et quand on arrivait à la frontière, on voyait depuis la frontière, on était à l'intérieur d'Israël, et on voyait juste derrière la frontière, le désert. Quoi. Mais avant le retour de Jésus, que la souffrance va augmenter encore, et il y aura beaucoup de souffrance, car Jérusalem est une pierre pesante, les nations viendront, ils viennent, ils veulent la soulever, ils veulent la reprendre, ils veulent l'attaquer, il y en a qui disent on veut la destruction totale de ce pays. Alors comme ces ennemis sont francs du collier, le jour du Shabbat, c'est-à-dire le jour du repos, surprise, en pleine fête religieuse des Juifs, le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre 2023. Vous êtes tous au courant, ça vient d'arriver. Le vrai nom du Hamas, c'est Mouvement de Résistance Islamique. Ce n'est pas tous les Palestiniens qui sont les méchants. Non. Alors, c'est vrai qu'en bombardant, c'est vrai que bon, c'est la guerre, si vous voulez. Mais sans le savoir, le Hamas a allumé la dernière mèche. Et quand cette mèche arrivera à toucher Jérusalem, le baril de poudre sautera, embrasant le monde entier dans le feu atomique. Ça placera le monde sous le jugement de Dieu. Et c'est pour notre génération, il ne faut pas se tromper. Alors, malgré l'existence de l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas des églises dénominationnelles qui se sont données un nom, comme ceux de Babel qui se sont donnés un nom. Je ne parle pas de ceux-là qui se sont corrompus avec la bête Malgorath, qui les manipule, mais je vous parle de la vraie Église sans nom, que seul Dieu connaît, les siens. Il y en a partout. Malgré l'Église de Jésus-Christ sur la terre, le peuple d'Israël demeure toujours le peuple choisi de Dieu. Dieu n'a pas rejeté Israël, pas du tout. Parce que c'est ce qui se dit dans certaines églises. Hein. Romains chapitre 11, verset 1. Mais ça se disait déjà du temps de Paul. Il y avait des chrétiens qui disaient ça. Et Paul est obligé de leur dire non. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, Israël? Loin de là. Car moi aussi, je suis un Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qui l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a fait? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui sont juifs de nom, mais qui ont abandonné Dieu, mais il y aura un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. C'est pas parce que vous avez fait du bien que vous êtes sauvés, mais parce que c'est un cadeau de Dieu, un cadeau que Dieu a choisi de faire à ceux qui veulent. Les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Si on doit faire des bonnes œuvres pour être sauvé, c'est... Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour, et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tient leur dos continuellement courbé. Alors, c'est terrible, mais quand on lit que leur table soit pour eux un piège, on pense... à la bouffe, mais c'est pas ça du tout. Vous avez déjà réfléchi le mot comptable? Tirez la conclusion que vous voulez. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, c'est-à-dire aux nations, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde avec Dieu, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Des ossements, des équelles, la vallée des ossements. Or, si les prémices sont saintes, c'est-à-dire Israël choisi, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, c'est-à-dire toi qui vis dans les nations, tu étais... Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, c'est-à-dire quelques juifs ont été retranchés, et si toi qui es un olivier sauvage, c'est-à-dire ceux des nations, tu as été hanté à leur place, c'est-à-dire greffé à leur place, et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. C'est-à-dire, sois humble, sache que ce n'était pas ta nature, tu as été greffé sur la promesse d'Israël, faite à Israël par Dieu. Donc arrête de dire que Israël a été rejeté par Dieu, arrête d'être antisémite, arrête d'être antisioniste, réfléchis selon ce que Dieu dit. Ne te glorifie pas aux dépens des branches, même de celles qui ont été retranchées. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est-à-dire le salut vient des Juifs. La Bible que tu as dans les mains, c'est un livre qui est écrit par des Juifs. Si tu connais le salut, c'est parce que les Juifs ont fait connaître tout ce que les apôtres, les prophètes et Jésus lui-même ont dit. Et toi qui es catholique et qui adore la Vierge Marie, c'est une maman juive. Alors arrête d'être antisémite, s'il te plaît. Si donc les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté, c'est-à-dire greffé, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Eux, ils ont été retranchés, ceux qui ont été retranchés parmi les Juifs, ils ont été retranchés parce qu'ils étaient incrédules et faisaient n'importe quoi. Et toi, tu subsistes, mais uniquement par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil en disant, voilà, maintenant les Juifs ont été rejetés, c'est nous le peuple de Dieu. Non, dis pas ça. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, ils seront regreffés. Car Dieu est puissant pour les hanter, les regreffer de nouveau, afin qu'ils puissent profiter de ce qui vient de la racine. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, sur Israël, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Et avec Michou, on a vu ça. Il y a ce qu'on appelle les Juifs messianiques. On était à Jérusalem dans une église de Juifs messianiques. C'était un moment vraiment magnifique, hein, chérie. Parce que ce sont des Juifs. Et ils aiment Jésus. Le voile a été enlevé de devant leurs yeux parce que ils ont réalisé, à cause de l'élection, qui ils étaient. Dieu ne rejette pas Israël au profit de l'Église, pas du tout. Dans la Bible, les vrais chrétiens ne sont pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Aussi 1 Thessaloniciens 4, verset 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre mise à part, c'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça, il parle à des chrétiens qui vivent en communauté, ou pas à des chrétiens qui ne se connaissent pas les uns les autres et qui posent leur derrière dans une église et puis qui se disent même pas bonjour. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Je vais arrêter là, mais vous pouvez lire encore. Je vais vous le lire, tiens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Hein, les gens qui croient pas, ils n'ont pas d'espérance. Alors ils disent oui, il a rejoint les étoiles, là, une étoile de plus dans le ciel. Bon, c'est des imbécilités poétiques, mais ce n'est pas la réalité. Moi j'étais une fois à un enterrement d'une grand-mère, c'était en Auvergne, et le curé a dit des choses merveilleuses sur cette femme, alors que tout le monde savait que c'était une vieille charogne. Pardon, j'ai dû trouver le curé à la fin, j'ai dit, mais écoutez, vous avez dit qu'elle est au paradis, mais cette femme, elle n'était pas croyante, elle était méchante, elle était mauvaise. Il dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise à ces pauvres gens? Je ne vais quand même pas leur dire qu'elle grille en enfer. Je dis, ben vous devriez. Mais il m'a dit, non, je ne peux pas faire ça. Vous voyez? Alors, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, pour le retour de Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par les uns les autres par ces paroles. Donc, ce qui va arriver, ça c'est la prochaine chose qui va arriver, les morts, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui étaient nés de nouveau et qui sont morts, ils ressusciteront premièrement, et ils partiront à la rencontre du Seigneur, et nous qui serons encore sur cette terre, eh bien nous serons enlevés en un clin d'œil, il y a un autre verset qui dit ça, en un clin d'œil, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ça sera, voilà, l'enlèvement. En Amérique, ils disent rapture. On sera kidnappé, enlevé de la terre. Et on ne vivra pas la colère qui va s'abattre juste après. La colère de Dieu va s'abattre sur la terre juste après ça. Il y en a qui ne croient pas comme ça, tant pis pour eux. Moi, je crois ce que la Bible dit. Voilà ce qu'attend les vrais chrétiens qui obéissent à Jésus. Pas les chrétiens de nom, mais les chrétiens qui obéissent à ce qu'ils voient qui est écrit dans la Bible. Ils seront enlevés de terre avant la ruine soudaine des nations à laquelle aucun incroyant ou soi-disant croyant n'échappera. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens 5, 3, 4. 1 Thessaloniciens 5. C'est ce que je viens de lire. Non, c'est pas ce que je viens de lire. 1 Thessaloniciens 5, 3, 4. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas dans la nuit et les ténèbres. Quand les hommes diront paix et sûreté. Savez-vous quand est-ce que les gens diront paix et sûreté? Ben, quand l'Antichrist sera venu, il va rétablir la paix. Ça va être formidable. Il va rétablir la paix, peut-être par la force, j'en sais rien, mais en tout cas, il va la rétablir. Et les gens diront, ah, paix et sûreté, enfin, on est tranquille, on est peinard. Et là, une ruine soudaine leur tombera dessus. Ma foi, voilà. Quand la Russie, par pays interposé même, attaquera Israël, deux tiers des Juifs qui sont en Israël mourront, et un tiers restera. C'est écrit dans le prophète Zacharie, au chapitre 13, au verset 8. Ce sera terrible. Jésus dit, de cette période-là, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Et il ajoute, et après ces jours de détresse, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, venant sous les nuées avec une grande gloire. Matthieu 24, 21, 39. Il viendra pour régner, pas pour nous enlever, il viendra pour régner après ça. Parce que Jésus va revenir en deux fois, la première fois, sur les nuées du ciel pour enlever son église, et une deuxième fois pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il viendra des nuées, tout le monde le verra. La première fois, quand il vient enlever les siens, il n'y a que les siens qui le verront. Pas les autres. Les autres diront, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, la communauté Genton a disparu. Tiens, le frère Intel a disparu. Tiens, l'autre chrétien, là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oh ben, il a été kidnappé par des extraterrestres. Tellement intelligent. Hein? Eh oui, les extraterrestres. Hein? Ils y croient, ça. Des bêtises, ça, c'est tout ce qui est bête, ils y croient. Bon, enfin, voilà. Et Israël sera définitivement délivré, je dirais même débarrassé, de ses ennemis. Jérémie 30, verset 7. Lorsque le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers, selon ce que le prophète Zacharie 14, 4 dit. Quand Jésus reviendra, ça sera fini. Toutes ces guerres, toutes ces fourberies, toutes ces méchancetés, toutes ces horreurs, tous les ennemis d'Israël seront... C'est Jésus qui mettra un terme à ces massacres. Zacharie 14, 3 et Zacharie 12, 9. C'est pourquoi je vous dis, lisez le prophète Zacharie. Les chrétiens, ils disent, oh, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous. Il est prophétisé tout ce qui va arriver depuis 600 ans avant Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus, et vous dites, c'est pas pour nous. Mais qui c'est qui vous a dit que c'est pas pour vous? Vos pasteurs, ils ont trouvé leur diplôme où? Dans un paquet bonus. L'Ancien Testament, il faut le lire. Et les survivants d'Israël tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé, et ils pleureront. Percé, qui c'est qui a été percé? Jésus a été percé à la croix. Zacharie 12, 10. Et Jésus instaurera son règne de paix. Zacharie encore 9, 10. C'est lui la pierre qui frappe les pieds d'argile et de fer de la statue que le prophète Daniel a vue. Daniel 2, 31, 35. Daniel, il avait vu, c'était encore longtemps avant, qu'il y allait y avoir des empires absolument fantastiques et que les uns après les autres seraient détruits. Et le dernier empire, il est fait d'argile et de fer, c'est-à-dire des éléments qui ne peuvent pas s'allier. C'est exactement ce qui est aujourd'hui. C'est des éléments qui ne peuvent absolument pas s'allier. Et la Bible dit qu'une pierre lancée par aucune main viendra frapper les pieds de cette statue. Et cette pierre qui est lancée par aucune main, c'est Jésus. Il viendra frapper les pierres de... Pow, et ça sera terminé, c'est lui qui prendra le pouvoir. Et ce sera le rétablissement de toutes choses annoncées dans les prophètes et dont Luc parle dans Actes 3, 21, et qui a déjà commencé. Ce rétablissement de toutes choses a déjà commencé. C'est sous nos yeux, ça se passe sous nos yeux. Toutes les nations serviront Jésus. Ah bon ? Oui, oui, toutes les nations. Psaume 72, 11. S'il y a des musulmans qui m'écoutent là, ils ne vont pas croire que c'est vrai. Et c'est pourtant vrai. S'il y a des juifs qui m'écoutent maintenant, ils diront que mais non, c'est pas vrai. Mais pourtant, vous le verrez parce que vous vivez pendant la génération qui verra ces choses. Ce règne de Jésus durera 1000 ans. Apocalypse 27, on va le lire. Apocalypse 27. Quand les 1000 ans seront accomplis, donc les 1000 ans du règne de Jésus, Satan sera relâché de sa prison, parce que pendant ces 1000 ans, Satan sera lié dans une prison, il ne pourra pas sortir les démons non plus. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, vous savez, je vous les ai identifiés dans ma dernière prédication de vendredi, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez savoir qui est Gog et Magog, qui est Gog, le chef de Magog, vous écoutez ma prédication vendredi. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer, ils monteront sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, donc Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les avait séduits, fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sera la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas Israël, qui n'aiment pas Jérusalem, qui attaquent sans arrêt, ils seront jetés. Le diable n'est pas le chef de l'enfer, hein. C'est le premier à y être jeté avec l'antichrist et le faux prophète. Et le diable va souffrir là-dedans, ça ne sera pas le chef de l'enfer, pas du tout, ça c'est une croyance idiote. Encore une de plus. Inventé par j'irai pas, mais bon, voilà. Vous savez bien par qui. Toutes les nations serviront Jésus. Et puis viendra le jugement final. Alors ça, c'est la suite de ce que je viens de vous lire. C'est donc écrit. Et le diable qui les avait séduits, qui avait séduit les nations contre Israël, furent jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux, détruits. Je me rappelle, on avait un frère qui disait, oh, mais quand même, Dieu va pas détruire Paris, une si belle ville, tu juges, on va être détruit, tout va être détruit, ça, oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bien sûr, puisqu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, ils sont jugés d'après leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est ça la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, vous savez, il y a le livre des œuvres, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et puis, il y a un autre livre, c'est le livre de vie où sont inscrits vos noms. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, Raphaël a dit, voilà, mais gloire à Dieu, maintenant, votre nom est en train de s'écrire dans le livre de vie. Mais non, mon nom est écrit depuis toujours dans le livre de vie. Je suis un prédestiné. Nous sommes prédestinés au salut dès avant de la fondation du monde. Et tous ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre n'étaient plus, ils avaient disparu, la mer n'était plus. Et vous continuerez à lire si ce sont des choses qui vous intéressent, j'espère que ça vous intéresse. Pour le moment, Israël attend le Messie. Ils ne savent pas que le Messie, c'est Jésus. Mais vous le savez, et suite à mon enseignement, vous en savez encore davantage, vous savez que le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, c'est le signe du retour imminent de Jésus-Christ. Jésus a dit, on trouve ça dans l'évangile de Jean 14, 2, « Je reviendrai ». Alors soyez prêts, je vous en supplie, soyez prêts, ne vous laissez pas distraire par les soucis de ce monde, etc. Ce que les prophètes, ce que Jésus, ce que les apôtres ont annoncé, tout s'est accompli jusqu'à maintenant. Il ne reste que quelques faits qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Même la télé, les journaux en parlent, avec leur point de vue, qui est faux. Mais ils en parlent. Mettons en pratique les recommandations de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 21:36 ? Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand vous verrez Jésus face à face, vous ne tomberez pas par terre à vous rouler en poussant des cris de hyène. Non, vous serez debout devant sa face et vous le glorifiez, parce que vous êtes ses frères. Mes chers frères et sœurs, je vais arrêter donc là mon étude au sujet de « Que se passe-t-il en Israël ?» Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas difficile, vous écoutez de nouveau, il y a 9 prédications, vous les écoutez encore, vous prenez des notes, et puis surtout partagez ces messages avec ceux que vous connaissez, qu'ils soient croyants ou non. Ils ont le droit de savoir et vous avez le devoir de leur dire. Souvenez-vous que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur Jésus-Christ le Messie. Philippiens 3, 20. Amen. Merci Jésus de m'avoir aidé à préparer ces prédications. Merci pour toutes les informations que j'ai pu trouver à gauche, à droite et qui m'ont permis de mettre cela au clair. Je te remercie, mon Dieu, de bénir tous ceux qui l'ont écouté avec respect. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de les garder et qu'ils puissent être prêts au jour où tu viendras pour nous enlever de cette terre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au revoir. À vendredi, c'est notre frère Olivier qui prêche.